Le musée McCord a le mérite de nous faire redécouvrir un photographe d'origine écossaise, romantique, très actif de son époque. Il est mort toutefois dans l'anonymat et encore peu connu actuellement. Et pourtant, il a côtoyé le grand Nutman et a cofondé l'Art Association of Montreal. Et c'était un photographe de paysages, particulièrement hivernaux, passionné de chasse et pêche. Et je suis absolument ravie d'être en très bonne compagnie d'Hélène Sanson, conservatrice sortante en photographie au Musée McCord. Écoutez, j'ai l'honneur de m'entretenir avec vous peut-être pour une dernière entrevue comme commissaire. Félicitations.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui a amené ce photographe Anderson à venir s'établir au Québec, au Canada?
Il y a probablement raison à ça, mais faut se rappeler qu'Anderson, il vient quand il a 24 ans. Il est destiné plutôt à une carrière de comptable à Édimbourg. Et c'est quelqu'un qui a quand même grandi dans un grand domaine naturel au sud-est d'Édimbourg. Il est habitué justement à observer la nature, à pêcher, à chasser le gibier. Alors, peut-être que l'aventure canadienne, avec tout ce que ça promet là, de chasse et de pêche et de grands espaces, c'était plus excitant pour lui que de faire de la comptabilité à Édimbourg, de suivre les traces de la famille. Et puis, il faut penser aussi que c'était facilité le déplacement de l'Écosse vers Montréal, vers l'Amérique du Nord, parce que c'est une colonie britannique. Donc, on pouvait retrouver toute une communauté écossaise. C'est comme si l'immigration était facilitée. Puis aussi, les voyages en bateau étaient relativement bon marché. Et puis, était direct entre l'Angleterre et New York, par exemple, ou parce que c'est le cas. Anderson, il va arriver à New York et ensuite, il va venir aussitôt. Sa destination, c'est vraiment Montréal. Il va venir à Montréal en train. Mais alors, des intérêts personnels, une conjoncture politique qui était favorable.
L'attrait de l'aventure, comme vous avez mentionné, oui. Puis il est indépendant de fortune.
Oui.
Hein?
En plus, oui, merci de me le rappeler. Effectivement, il est indépendant de fortune. Et puis, sa jeune femme aussi, sa jeune épouse, est également indépendante de fortune. Alors, ils peuvent envisager de s'installer très confortablement au Canada puis de vivre une aventure nouvelle.
Alors, écoutez, Anderson, quel paysage il a photographié. En tout cas, je pense que il a beaucoup photographié au Québec. Hein?
Oui, oui. Il a photographié d'abord Montréal, puis autour de Montréal, quand il arrive, là, c'est les cantons de l'Est. Et puis, ils vont à Québec, parce que Québec, c'était la ville de garnison, puis c'était là où se réunissaient beaucoup de Britanniques. C'était la ville qui était vraiment à la mode. Et puis, il allait aux chutes Montmorency, il allait glisser sur le cône de pain de sucre. Donc, au début, il photographiait au lac Beauport. C'est surtout au début les paysages environnants de Montréal et de Québec. Et petit à petit, il va s'éloigner, il va aller vers le bas du fleuve. Assez rapidement, il va aller là, Kakuna, Kamouraska, Métis, Rimouski.
À la rencontre des communautés autochtones, hein?
Bien, forcément. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'il recherche? On ne le sait pas, mais forcément, en allant dans ces régions éloignées, il va faire la même chose aussi du côté de Charlevoix, du côté du Saguenay, bien, il croise les Autochtones. Puis comme il aime faire des voyages en canot sur les rivières, sur les lacs, mais ça, c'est le domaine des Autochtones, il les croise et il les photographie.
Écoutez, ces photos sont absolument magnifiques et captivantes. On nous montre l'époque d'un Québec qui est encore en train d'être défriché, des villages qui sont partiellement construits.
Oui, le lac Saint-Jean, là, c'est impressionnant. Oui. On voit ça là, sur le bord du lac, là, les petites maisons en pièces sur pièces qui sont installées, ou bien du côté de l'Outaouais, à Chatham, c'est des maisons encore là, pièces sur pièces, mais on voit toutes les souches, un peu comme on a vu dans le film Maria Chapdelaine, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un document authentique sur le Québec touristique, mais il y a 150 ans. Comment c'était il y a 150 ans? Les endroits qu'on aime, qu'on adore, où on adore aller pendant l'été pour voyager puis découvrir. Puis il est allé jusqu'à Mingan. Il est allé jusqu'au Havre-Saint-Pierre, Mingan. Il est allé là en bateau avec les Molson. Il a rapporté des photos. Alors, vraiment, ça fait partie de notre héritage. Ça constitue notre histoire visuelle.
Avant qu'on parle justement de la collection McCall, parce qu'elle est d'importance, quelle était son approche en photographie? C'était un photographe romantique, mais de quelle façon?
Sur le plan des procédés, ben, il utilise les procédés de l'époque, c'est-à-dire il photographie sur des plaques de verre, puis oui. imprime sur du papier albuminé. Puis c'est des techniques qui sont lourdes de maniement, parce qu'il faut transporter les plaques, il faut parfois émulsionner les plaques sur place, puis les développer, tout ça. Ça, il est assez... Et puis, il innove là-dedans. Hein? Il essaie toujours de trouver des techniques qui vont être justement plus efficaces, un matériel plus lourd, plus léger.
Et, quel était son regard?
Son regard est complètement informé par l'art romantique qu'il connaît en Grande-Bretagne.
Par exemple, Turner.
Il s'intéresse à... Parce qu'il cite qu'il est allé en des expositions puis qu'il a vu des tableaux de Turner. Il s'intéresse à Constable aussi. Et dans sa jeunesse, les quelques 24 ans, il a eu l'occasion de voir des grands maîtres de l'art britannique, du paysage. Bon, on sait que les Anglais sont des maîtres dans l'art du paysage. Alors, il était formé à ça. Dans la famille, il y a des aquarellistes. Ça fait partie, là, de... Puis dans la famille, il y a des tableaux au mur. Alors, son œil est formé. Et quand il commence à faire de la photographie, pour lui, c'est une façon... il veut faire des images artistiques. Et puis, il connaît
c'est ça,
aussi...
C'est ça, il développe beaucoup, il fait beaucoup de recherches, là, qu'il souhaite, puis il souhaite participer à bien des concours. Là.
Oui, il participe à des... il est à l'affût de toutes les associations qui vont lui permettre de s'améliorer, comme le Stereoscopic Club de Londres, comme l'Amateur Photographic Club aussi de Londres. Ensuite, il va... le Edinburgh Club de photographie... alors, il veut échanger avec des photographes. Et il devait connaître aussi, il y avait des grands photographes en Écosse. Il n'y a pas juste Turner puis les peintres. Il y a des grands photographes comme Wilson, qui est un photographe de paysage. Et puis, d'ailleurs, dans l'exposition, à un moment donné, on montre deux photographies, une photo de Wilson puis une photo d'Anderson, puis on voit comment c'est la même composition. Puis ça, là, quelqu'un qui voudrait faire une étude comparative très serrée, c'est le rapprochement se fait entre Anderson et des photographes écossais de son époque.
Et quels étaient ses rapports avec Nutman?
C'était des rapports amicaux et des rapports... ils étaient dans le même groupe social. Ils étaient des amis, ils faisaient des activités ensemble. Puis aussi, ils avaient les mêmes intérêts pour les arts, hein? L'art et la photographie, Nutman a défendu ce point de vue-là, que la photographie était un art.
Ça n'allait pas de soi en Écosse, hein?
Ça n'allait pas de soi dans le monde de la photographie. Ah. Il y avait un grand débat dans les années 1850. Est-ce que la photographie est un art? Certains disaient qu'absolument pas, c'était mécanique, c'était commercial. D'autres disaient que oui, ça allait le devenir ou ça l'était, il fallait aller dans ce sens-là. Alors, il y avait un débat. Lui, sa position, c'était que la photographie, c'était un moyen de faire, c'était une façon artistique d'exprimer, de représenter les choses. Et il partageait cette conviction-là avec Nutman. Puis d'ailleurs, ensemble, ils ont fondé et avec d'autres Montréalais, une petite dizaine de Montréalais, ils ont fondé l'Art Association of Montreal.
C'est quelque chose qu'il a participé à ce grand événement. Oui. Alors, il est assez connu, je pense, assez apprécié de son vivant.
De son vivant, oui. Son vivant, il avait une notoriété nationale, en tout cas montréalaise, et internationale. Il a gagné des prix. Il a une médaille d'argent dans une exposition universelle à Paris en 78, je crois. Ensuite, à New York, dans les mêmes années 77-78, il gagne encore des premiers prix. Non, il était... Il publiait des articles dans les revues, il publiait ses solutions, ses méthodes de travail.
Alors, comment expliquer qu'il soit tombé dans l'oubli à son décès? Écoutez, c'est...
Oui.
On ne peut que se questionner énormément.
Oui, mais c'est parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas eu de descendants. Hein, sa famille s'est arrêtée avec son petit-fils qui a dû avoir à jouer dans le fait que la notice nécrologique ne mentionne absolument pas le travail d'Anderson. Si on lit la notice nécrologique, il vient de mourir, Monsieur Alexander Anderson.
Personne ne sait
qu'il a été membre du Photographic Club, il a travaillé comme comptable, mais on ne mentionne rien sur sa photographie. Et en plus, quelques années plus tard, quand la famille, le fils a besoin de de se débarrasser la maison des milliers de plaques de verre, ben il les fait détruire. Il les fait...
C'est inimaginable. Alors de là, c'était une de mes questions. Ben là, il y a beaucoup de tirages qui sont disparus.
Oui. Il y a des tirages qu'on ne retrouvera pas. Peut-être que là, le fait de faire l'exposition, il y a des gens qui vont découvrir qu'ils ont des Henderson qui, dans leurs archives, dans leur tu sais, il y a des familles qui ont collectionné des choses. Il y a des collectionneurs qui vont se manifester. Mais...
De là, l'importance d'exposer sa photographie.
Oui, c'est ça. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que c'est vers 1950 que l'historien d'art Gérard Morissette, quand il fait un livre sur les premiers photographes du Québec, ben là, il mentionne Henderson. Puis il mentionne qu'il a fait des très belles photographies de nos vieux bâtiments. Mais à ce moment-là, il n'y a personne qui possède une immense collection. Alors, c'est difficile de...
Alors, vous avez fait l'expo de rassembler le plus possible ces photographies, puis ça démontre la collection du Musée McCord. Si vous nous présentez cette collection brièvement...
Oui, absolument.
Sur ce photographe romantique.
Oui. Bien, on a la plus grande collection de photographies d'Henderson, puis elle a été composée, ça s'est constitué graduellement, d'abord par David Ross McCord, qui, lui, quand il a fondé son musée, dans sa collection, il y avait des photographies d'Henderson. Il avait même demandé à Henderson de photographier sa maison de Temple Grove. Et puis les négatifs qui nous restent sont de la collection McCord. C'est David Ross McCord qui avait avec lui à peu près 7-8 négatifs.
Ils sont précieux.
Oui, absolument. Oui. Puis ensuite... Il y a des familles montréalaises qui ont donné des albums, des choses qu'ils avaient. Ensuite, Stanley Triggs a beaucoup travaillé avec l'exécuteur testamentaire du petit-fils de Henderson pour acquérir les archives familiales, dans lesquelles il y avait aussi beaucoup de photographies. Et puis là, lui-même, Stanley, il a collectionné, il allait dans des endroits, dans des encans, où il pouvait trouver des photographies d'Henderson, puis il les a données à la collection. Là, quand il nous arrive que quelqu'un de l'extérieur nous dit « j'ai des photos d'Henderson, puis je voudrais les donner au musée », c'est sûr qu'on est très, très, très intéressé. Ah, tout de suite, c'est un événement.
L'exposition propose plus de 250 tirages, mais à combien?
Je dirais peut-être 150 tirages originaux, puis les autres, c'est des documents d'archives et c'est des albums et parfois quelques reproductions parce qu'il y a des photos qu'on voulait absolument montrer puis qui étaient dans les albums, donc on a fait faire des reproductions.
Alors, Mme Sanson, en terminant, si vous présentiez brièvement le parcours proposé au public, écoutez, il y a plusieurs sections très inspirantes, dont la grande salle en terminant.
Oui, ça me fait plaisir de vous dire ça, de vous décrire ça un peu. Bien, l'exposition commence par une salle ou une galerie où est-ce que là, on présente tout de suite les chefs-d'œuvre d'Henderson. Les gens se demandent tout de suite, bien, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ce photographe-là? Ils voient tout de suite là, une espèce de florilège de ses œuvres. Et ensuite, on peut répondre aux questions qui sont posées quelles sont les origines d'Henderson, ses origines écossaises, comment il s'installe à Montréal, des photographies sur sa famille. Ensuite de ça, sa période amateur, où là, il cherche à se faire connaître, ses premières photographies, ses expérimentations qu'il fait. Et ensuite, on arrive dans une très grande salle où là, c'est les sujets d'Henderson. On tente de présenter son œuvre en général, mais c'est regroupé par sujet. Et il y a 6 thèmes qui sont présentés dans cette grande salle-là. La fin de l'exposition, on revient sur un peu ce qui fait ses chefs-d'œuvre, ce qui fait de lui d'exceptionnel. C'est son travail sur la nature et puis sur la neige, toute une série de photographies qui portent exclusivement sur des effets de givre et de neige. Et finalement, une salle où les reproductions sont énormes. Et là, grâce à la technologie, on a pu insérer un léger mouvement dans les images d'Henderson pour rendre ça encore plus, augmenter la présence qu'on peut avoir dans le paysage.
Accompagné de musique inspirante. Merci beaucoup, Mme Hélène Sanson, de nous avoir à la fois commenté le photographe, la collection, présenté le parcours de l'exposition. C'est une belle recommandation que je fais à notre auditoire.
Merci beaucoup.
Et je voulais surtout vous féliciter pour toute votre contribution comme commissaire sortante. Là, écoutez, merci. Bonne nouvelle étape.
Merci beaucoup. Merci. Ça a vraiment été quelque chose, extraordinaire. Un grand privilège de pouvoir travailler dans cette collection-là, de faire connaître une vision particulière de Notman le visionnaire, comme on l'a fait en 2017.
Puis là, pendant combien d'années?
Puis maintenant, de faire connaître Anderson, vraiment, c'était des moments formidables.
Donc, vous étiez la commissaire de ces deux grandes expositions et vous avez œuvré pendant combien d'années?
16 ans.
Encore toutes mes félicitations. Alors, bonne nouvelle étape.
Merci beaucoup.